la musique.
Caravana de maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive
les oreilles!
Libre!
Alone.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde entier à Ivry, radio-libertaire.net ou anarchiste.info. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous allons écouter sur le réseau Hertzien la table ronde qui a eu lieu le jeudi 28 janvier dernier au théâtre Antoine Vitesse de Ivry, proposée par Son d'Hiver et Alexandre Pierrepont, anthropologue et initiateur des rencontres franco-américaines The Bridge, que nous avions reçu, je crois, dans l'émission il y a quelque temps déjà. Pas beaucoup de musique dans cette émission, nous avons débuté avec Boo, quartet constitué des Tchèques Andrea Konstankiewicz, qui habite en France, Josef Ostransky, qui est en Bulgarie, Pavel Koudelka, qui est en République tchèque, et l'Autrichien Christophe Payer, qui vit à Vienne. Ils se reforment après 19 ans de séparation et de façon virtuelle, puisqu'ils ont enregistré ce titre par Internet durant le confinement. Le morceau est d'ailleurs intitulé Lockdown Dance, la danse du confinement. Il va être question de la crise sanitaire et de ses conséquences dans ce qui suit. Je laisse le soin à Alexandre Pierrepont de présenter ses invités.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette étrange tambour-conférence, on va dire, dans un étrange festival Son d'Hiver, à une étrange période à travers le monde. Confiné du monde entier, bonjour. On a décidé donc d'entretenir les échanges malgré tout, de la même manière que les festivals, les lieux de diffusion, les lieux de culture essayent de maintenir ce qu'ils peuvent maintenir en se posant la question de ce qu'il y a à maintenir et pourquoi faudrait-il malgré tout maintenir quoi que ce soit. C'est le genre de choses dont on va débattre cet après-midi tous ensemble. Alors tous ensemble, nous avons avec nous Raphaël Tchamichian. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Nous avons Pierre Ten. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Nous avons Javi Montgomery. Bonjour. Bonjour. Nous avons Jean Rochard.
Bonsoir.
Et nous allons d'ailleurs commencer par eux dans un instant, Yaping Wang et Didier Petit. Bonjour à tous les deux.
Bon après-midi.
Voilà. Les uns et les autres sont musiciens, producteurs, universitaires, journalistes, activistes, citoyens du monde. De toute façon, c'est ce qui nous rassemble peut-être le plus les uns et les autres. Évidemment, cette table ronde, comme je le disais il y a un instant, n'est pas sans fondement ni sans contexte, et c'est même ses fondements et ses contextes sur lesquels nous allons revenir tous ensemble cet après-midi. Voilà. Comment vivez-vous la situation en tant qu'artiste, en tant qu'activiste, en tant qu'individu, tout simplement? Comment vivez-vous cette situation qui nous est imposée depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques siècles? Donc je vous passe tout de suite la parole avec cette simple question, Yaping Wang et Didier. Didier Petit.
Ce moment-là, pour nous, cette période, en fait, pour moi, c'est pareil. Parce que pour les musiciens, on a toujours les choses à faire. Mm-hmm. Même s'ils pratiquent tout seul ou écrivent la musique. Donc, pour moi, je suis tranquille et je joue quand même. Oui. Il faut que je sois toujours prêt là. Et donc, j'attends que la vie recommence. Oui, c'est ça. Et pour toi, Didier?
Oui, moi d'abord, je crois que c'est à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire que quand il y a eu les premiers confinements, finalement, je me suis dit, bon, que faire? J'avais des travaux à faire en retard, j'avais plein de choses en retard. Donc je m'interrogeais, mais en même temps, je ne m'interrogeais pas de manière forte. Je suis passé quand même pas mal à travers les gouttes du filet. Et comme j'habite à la campagne, il se passe plein de choses, même quand y avait le confinement, il se passait encore beaucoup, beaucoup de choses. Puis petit à petit, ça s'est rétréci, mais en fait, j'ai la sensation que ça s'est rétréci de manière plus mentale. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc et une lourdeur qui s'est imposée avec le temps. Et donc, ça m'a amené à réfléchir et à me dire, bien évidemment, comment vivre à l'intérieur de cette chose qui va évoluer, qui va bouger, dont on n'a pas la capacité et le contrôle, dont personne n'a le contrôle d'ailleurs. Et par ailleurs, comme j'ai une pratique qui tourne quand même beaucoup autour de l'improvisation, dans la réalité, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'est-à-dire que j'ai pu entrer à l'intérieur de ça et continuer à penser, à imaginer, à faire, à organiser, et avec la situation telle qu'elle est et telle qu'elle se propose. Et tout en me disant que finalement, il est possible que... je me suis mis à penser que cette situation allait certainement durer, et que possiblement, cette situation qui dure pourrait progressivement nous transformer tous, petit à petit, et nous permettre de changer soit complètement le paradigme, soit d'aller vers le pire. Et que donc, pour moi, on est dans une situation où on est dans une transformation et où ça peut aller complètement dans un sens avec une transformation progressive, ou ça peut aller vers une violence qui est déjà là, hein, qui était d'abord déjà là avant, et qui s'impose de plus en plus en tant que telle, pour les raisons diverses que plein de gens analysent d'ailleurs. Mais c'est surtout la réflexion de comment j'essaye de me situer à l'intérieur de cette violence, et comment je peux avancer malgré cette violence qui, de toute façon, serait intervenue quoi qu'il arrive. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un accélérateur, et que voilà, je me dis toujours, je pense toujours à ces choses qui sont comment dire ça, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on écoute, on est ce qu'on écrit, et donc comment on écrit les choses petit à petit, progressivement, dans une direction qui, pour moi, doit aller vers ça, c'est pas nouveau, vers le petit et pas le gros. Donc nous transformer petit à petit pour aller vers le small is beautiful, pas le monde est petit.
Petite page de publicité.
C'était irrésistible. Donc littéralement, je me tourne vers les autres participants à cette table. On va essayer de reprendre les termes proposés par Didier dans son ressenti, hein, de comment il ressent cette situation. Est-ce que vous avez les uns et les autres ressenti effectivement, ou est-ce que vous êtes en train de ressentir une transformation? De quel ordre? Est-ce qu'elle ressemble à celle qu'éprouve Didier? Est-ce qu'effectivement on peut parler d'accélération du cours des choses, d'un fâcheux cours des choses? J'ai à titre, on va reparler bien sûr d'art et de culture dans ces histoires-là, dans un instant aussi, mais déjà à titre personnel, est-ce que...
Moi, je peux rebondir un peu sur ce qu'Odidier a dit au sujet du rétrécissement mental induit par la situation actuelle. Au début, au premier confinement, j'ai éprouvé une forme de répit, une forme d'accalmie que j'ai trouvée assez positive finalement. Et puis ensuite, au deuxième confinement, s'est installé, a émergé plutôt le manque de la possibilité de l'imprévu. Et pour moi, c'est ça qui caractérise vraiment la période qu'on traverse. Et évidemment, c'est complètement en lien avec la musique qui nous rassemble tous ici. C'est l'idée qu'il y a un rétrécissement non seulement spatial, puisqu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller, mais il y a aussi un rétrécissement temporel. On ne peut pas se projeter. Et toutes ces choses-là, en fait, sont associées aux musiques qui nous rassemblent ici, il me semble, parce que ces musiques-là... précisément, elle propose une brèche dans le présent. Et c'est cette brèche-là aujourd'hui qui nous est refusée, qui nous est complètement fermée. Et en ce sens-là, je rejoins un peu voilà, ce que disait Didier sur le rétrécissement mental.
Jean ?
Ben, ouais, j'entends plein de choses. Là, bon, sur l'histoire de brèche, peut-être on reviendra après sur ce qui peut faire une brèche ou ce qui n'en fait pas. Ou ce qui en fait une et qu'on ignore aussi, parce qu'on aimerait que ça soit une autre brèche que celle qui est en train de se passer. Moi, tu as parlé de siècle tout à l'heure. C'est plutôt ça qui m'intéresse, en fait. Cette histoire de coronavirus, bon, à part d'être le nom d'un personnage d'une aventure d'Astérix, c'est arrivé tout à coup, et je me rappelle de cet article qui était passé dans lundi matin. Je suis venu parce que vous n'arriviez pas à trouver le frein d'arrêt. visiblement, on ne le trouve toujours pas. On cherche quand même à faire comme si on allait s'en sortir de ce truc qui a mis en exergue tout ce qui ne va pas depuis très très longtemps, mais d'une façon extrêmement compressée. Et on est dans des situations vraiment incroyablement bizarres, et j'ai l'impression que parfois on se prête aussi nous-mêmes à ce petit cirque en endossant les costumes qui vont justement en tant que gens de culture. Puisqu'on parle de culture, on peut parler d'agriculture. Julien de Normandie, c'est le ministre de l'Agriculture, il a annoncé l'abattage de 2 millions de canards, par exemple. Et en même temps, on apprend qu'il va y avoir une loi sur le bien-être animal. Donc d'un côté, on va abattre 2 millions d'individus vivants, comme ça. Et de l'autre côté, on nous dit qu'on va faire une loi sur le bien-être animal, parce qu'il faut que les animaux vivent mieux. Je trouve ça extrêmement représentatif de ce qu'on est en train de vivre. Donc on peut nous dire, ouais, vous avez plutôt envie d'être avec les animaux pour lesquels on va voter une loi de bien-être, plutôt qu'avec les canards qu'on va abattre, comme on abat un peu les gens dans les EHPAD, aussi d'une autre manière, etc. Voilà. Donc, j'ai pas de... Enfin, sur mon propre ressenti, c'est pas tellement intéressant.
Mais tu éprouves aussi une accélération dans l'abattage,
même sur le faire du cynisme. En fait, ce que j'éprouve, c'est un sentiment de quelque chose qui va très vite et qui ne bouge pas, quoi. Mon impression personnelle, c'est quelque chose de très très étrange de cet ordre-là. Et
tu peux préciser qu'il ne bouge pas.
Oui, oui, parce qu'on est toujours dans quelque chose qui attend le moment où ça va reprendre. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui va reprendre. On nous dit ouais, on va attendre qu'on en sorte. Mais en fait, la catastrophe, elle va être au moment de cette reprise. Le moment où les boîtes vont fermer, où les tribunaux de commerce vont réouvrir, etc. C'est au moment où va y avoir cette reprise économique, blablabla, blablabla. C'est ce moment-là qui va être le moment de la catastrophe. C'est pas maintenant.
C'est déjà le cas.
Non, pas encore. Pas encore, vraiment. Non, je crois que le meilleur est à venir. Donc, après, c'est comment nous, on va agir par rapport à tout ça, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être dans le mirage aussi de la reprise pour la culture, la réouverture des théâtres. Ouais, réouvrir les théâtres, les machins, tout. Je veux bien, tout. Oui. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse aussi. C'est d'ouvrir, tout simplement, des choses qui sont fermées depuis très, très longtemps. Depuis très, très longtemps. À commencer par notre propre expression, en fait, qui s'est complètement elle-même confinée depuis si longtemps dans des petits schémas qui sont adaptés à des critères institutionnels de marché, de pas marché, etc. Enfin, voilà.
Pour rebondir sur ce que Jean vient de dire, c'est, en ce qui me concerne, pour moi, l'industrie, dans son ensemble, est l'ennemi. Je prends le terme ennemi à dessein. C'est-à-dire que quand l'industrie s'est transformée pour aller vers le vivant et pour aller vers le culturel, il a petit à petit éliminé toute possibilité de fonctionner autrement que de manière industrielle. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, on est ce qu'on mange. Si on mange de la merde, on est de la merde. Si on écoute de la merde, on est de la merde. On est ce qu'on... ce qu'on fait. Pour moi, l'industrie est aujourd'hui la mauvaise direction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, small is beautiful, c'est-à-dire que tant qu'on continuera à utiliser l'industrie pharmaceutique, l'industrie culturelle, l'industrie agroalimentaire, qui sont dans les mêmes modes de fonctionnement, quand on reviendra, si on continue à utiliser ça, ces critères-là, on devra se ça recommencera. Enfin, ça recommencera comme avant. Et donc, on ne pourra pas s'émanciper de ce modèle-là s'il se réimpose à nous-mêmes. Donc, c'est à nous de faire en sorte qu'il ne se réimpose pas. Alors, quand je dis ça, je dis un grand mot.
Il ne va pas se réimposer, parce qu'il s'impose déjà. Le capitalisme...
Il s'impose déjà, mais sauf qu'il est, extrait... Enfin, il n'est pas totalement affaibli. C'est très clair. C'est très clair.
Alors, j'en profite...
Il se réimposera dans le sens de... Il perdurera, il se redéveloppera.
Se redéploiera.
Se redéploiera.
Pierre Ten, je te pose la même question qu'aux autres, tu as compris, mais en mentionnant aussi au passage que tu as supervisé avec d'autres une enquête dans le dernier numéro des Allumés du Jazz sur musique et politique auquel quantité d'acteurs du secteur ont répondu.
Enfin, avec d'autres, avec Jean.
Donc voilà, c'est aussi bien d'ailleurs peut-être ce qui ressort de cette enquête eu égard à ces questions-là qui se sont posées aussi dans la dite enquête. Mm-hmm. Et donc évidemment, comment toi, à titre personnel, tu analyses les choses.
Moi, à titre personnel... Enfin, c'est plus un ressenti qu'une analyse. Ça fait écho à plein de choses qui ont été dites. Ce qui me frappe le plus et de plus en plus, c'est un sentiment plus d'impuissance, en fait. Puisque, Raphaël, tu parlais de ce cloisonnement, de ce rétrécissement qui a été évoqué par d'autres. Moi, si on reste sur les musiques, je suis assez frappé pour des musiques improvisées, comment, en termes d'organisation, on est en déficit, justement, d'improvisation. C'est-à-dire que finalement, on voit bien qu'on est tous à se porter vers des formes qui existaient déjà, qu'on peut condamner parce qu'elles sont industrielles, comme le streaming, mais qu'on est contraint à utiliser, que les analyses apparaissent comme étant assez limitées, et que, d'une certaine manière, moi, cette période-là, elle me met, en termes de ressenti, elle me met assez mal. Et c'est aussi une souffrance parce que, justement, elle révèle une impuissance du monde musical, culturel et au-delà d'un ensemble de champs sociaux, même si des choses se font et que j'essaye de les faire, etc. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette enquête, une des choses qui m'a frappé, c'était un peu ça, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une vivacité de réflexion, d'action qui est faite, dont on ne mesure pas trop encore les effets, la portée. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a une division très forte des analyses. Il y a des musiciens qui sont plus dans une acceptation aussi de ce qui se passe et une recherche d'adaptation, pour prendre un vocabulaire qu'on aime bien au plus haut sommet de l'État. Il y a des musiciens qui cherchent des résistances réellement. Est-ce qu'ils les trouvent on ne sait pas encore trop. Et tout ça, dans ce ressenti et le peu d'analyse moi que je peux faire, c'est un vrai sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, je suis contraint d'adopter des formes d'expression, des formes de réunion, des formes d'action qui sont contraintes, justement. Parce que le numérique, parce que les lois et les restrictions de liberté qu'on connaît. Et pour l'instant, je ne vois pas de propositions qui permettent d'en sortir. Après, il y a des ouvertures, comme Jean disait, une réflexion peut-être sur le plus long terme. Mais c'est ça qui me questionne le plus aujourd'hui, notamment dans le cadre d'un milieu d'improvisation où, moi, je trouve qu'il y a un déficit d'improvisation, ou du moins, il y a une impuissance de l'improvisation d'un point de vue social, politique. Je ne parle pas de l'esthétique et du musical. On n'y arrive pas, quoi. Et maintenant, on fait des concerts dans des bulles. C'est quand même une improvisation assez limitée, quoi.
Ok, je recommence de parler un peu. Oui, en fait, je viens de Taïwan et dans mon pays, en fait, l'année dernière, il n'y a pas trop de compact par le Covid. Même si comme ça, les gens avaient peur aussi. En fait, je me sentais déjà, même si je fais du concert à Taïwan, on n'a pas si beaucoup de monde que nous avons. Aussi, maintenant, je me sentais qu'un petit peu de... Comment on pourrait retirer la concentration pour le spectacle? Parce qu'ils sont déjà habitués, maintenant, regardez-nous sur l'écran. J'ai déjà fait beaucoup de concerts sur ligne. Et comment ils pensent que oui, ça marche aussi? Oh, on continue à faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui manquent beaucoup de théâtre, mais il y a des gens qui aussi peut-être changent d'habitués pour voir le spectacle. Et donc, pour moi, c'est... Je crois qu'il faut juste tourner les autres pages. Parce que la vie qu'on est habitué peut-être revient pas. Mais il faut trouver des solutions. Nous, musiciens, on préparait, on gardait notre rythme. Et on voit c'est quoi la page la prochaine. Ouais.
Oui, merci. peut-être demander du coup aussi, on a une perspective à Taïwan, mais une perspective aux États-Unis à J.V. Montgomery. J.V., you understood more or less what everything everyone was talking about, of course. And so, from your perspective and from your daily life perspective in Nashville, Tennessee, where you live, how do you see that whole period?
Of last year?
Mm-hmm. Until now and maybe later.
Yeah, coming from Nashville is where the musical market is more aimed towards commercial music. We've seen the capitalism really try to hold on to music being played for tourists. And we have yet to see sort of an awakening of musicians as pirates creating our own series, streaming series. Even you don't even hear of any clandestine concerts in parks in Nashville. There were some in Chicago, people getting together to play in parks, because that's what we have in the States, is a public arena, is the outdoors. And it has a lot to do with who owns the spaces. In Chicago, there are definitely venue owners who have opened up venues for social distance concerts and streaming. But the way we live in Nashville, we depend very much on small businesses to be open in order for us to present music inside of their bars and places. And so without them, and without musicians with property or buildings, we can really see the inequality that exists between the creative class and the capital class. And if things remain, you know, if we remain in lockdown, many musicians are going to have to come together to maybe buy land, buy property, in order for us to have places to play. Because right now there are more commercial musicians who aren't playing instruments. There are people who have quit playing music because their playing music was so tied to their income, and which is sad.
Alors pour commencer par la fin, hein, J.V. Montgomery disait donc que déjà beaucoup de musiciens ont arrêté de jouer, hein, particulièrement ceux dont les sources de revenus reposaient entièrement sur la pratique musicale et sur donc évidemment les cachets qu'ils pouvaient toucher en jouant de la musique qu'ils ne peuvent plus jouer. Et sinon à Nashville, donc la ville où il est installé maintenant, il a fait référence aussi à Chicago, Nashville est connue pour être une ville où le mainstream, et particulièrement le mainstream musical, est ce qui fait la réputation de la ville. Une réputation que le capitalisme local exploite évidemment dans toute sa largeur par rapport à l'industrie touristique des visiteurs en ville, évidemment, qui est profondément affectée par ce qui se passe en ce moment. Donc en réalité, la musique a pu continuer parfois parce que les musiciens se sont comportés comme des pirates, en créant leur propre série, parfois de concerts clandestins quand il le fallait, ou parfois quand le beau temps le permettait, en jouant, ce qui est une tradition locale aussi aux États-Unis, hein, en jouant dans les parcs, puisque c'est à peu près les seules arènes publiques qu'ils ont, les parcs, donc ça aussi à Chicago. La question que pose, enfin l'une des questions que pose la situation actuelle, nous dit J.V. Montgomery, bien sûr, c'est de se poser la question de la propriété immobilière, particulièrement, hein, à qui appartiennent les espaces où la musique peut se faire entendre. Et qu'en font les propriétaires de ces lieux? On voit que les propriétaires de ces lieux, il y a différents types de lieux d'abord, hein, de grandes surfaces ou de petites surfaces. À Nashville, les musiciens, c'est grâce au petit business, au petit commerce, aux bars particulièrement, les musiciens créateurs qu'ils pouvaient jouer. Et tous ces types de commerces-là sont fermés. Les seuls qui restent ouverts, ce sont à plus vaste échelle. Ils leur sont de toute façon inaccessibles. Et on voit bien du coup, je vais poser la question tout de suite, de préciser, hein, les rapports conflictuels qui peuvent exister, qui préexistaient à la crise du moment, hein, entre la classe capitaliste et ce qu'il a appelé la classe créative, hein, creative class, et c'est là-dessus que je vais lui demander de préciser dans un instant. En tout cas, il disait qu'ils sont beaucoup à réfléchir à devenir propriétaires terriens, au sens propre et au sens figuré, hein, aussi bien racheter des lieux en ville que pourquoi pas acheter de la terre à la campagne pour pouvoir y accueillir la musique, les musiciens et les amis des musiciens. Javier, I was just stating, and I heard you making that opposition between the capital class and the creative class. Yeah. Of course, the creative class, we are not used to that expression. I think I see what you mean, but could you elaborate a little bit? What do you, who do you call the creative class?
Creative class is artists, musicians, graphic designers, and in generally people who don't own anything. And, you know, you have the capitalists. Class, the bankers, the landowners, the landlords, who own all the buildings, you know. So,
What about the working class and all that?
Well, the working class is sometimes a part of the creative class, but the working class is a third class. It's you know, it's the people who are.
It used to be the first class.
It's the working class are in America are people that seemingly don't have a hold on the power of the capitalists, don't understand why the creative people are doing what they're doing, and would just rather watch sports.
Je traduis juste, je te laisse continuer. Donc la creative class, ça serait plutôt évidemment donc les musiciens, les artistes en général, tous ceux qui travaillent autour d'eux, ça peut être aussi des ingénieurs, etc. Et plus généralement, c'est celles et ceux qui ne possèdent rien, ou qui ne posséderaient rien, par rapport à la classe capitaliste, qui elle serait la classe des propriétaires, aussi bien des biens immobiliers, donc comme on en parlait précédemment, que des moyens de production ou de promotion ou de diffusion, etc. Et Jean-Richard posait la question de la working class dans cette histoire. Javier Montgomery commençait à répondre en disant que voilà, bah, elle fait parfois partie de la creative class, mais c'est aussi un ensemble de populations soumises à une très forte aliénation qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la main sur les moyens de production dont on parlait un instant, ou même de se signifier soi-même et qui sont fortement invités à s'abêtir dans les spectacles sportifs et autres.
Alors moi, je trouve que c'est intéressant l'idée de cette troisième classe qui serait cette espèce de classe culturelle, puisqu'on emploie ce mot de culture un peu à tort et à travers depuis longtemps. Enfin, et puis depuis que cet imposteur de Malraux nous a imposé cette idée au travers d'un ministère, d'ailleurs, qui n'était même pas son idée, qu'un cadeau que le général de Gaulle lui a fait pour s'en débarrasser, en fait, parce qu'il voulait un ministère de la jeunesse. Après, on a dit des affaires culturelles, ça vous irait, etc. Bon. Voilà. Et puis maintenant, on est resté dans cette idée. Il y a les gens de la culture et puis les autres. Et je trouve que c'est vraiment un gros problème. Parce qu'effectivement, si on regarde... Et en plus, j'ai vu cette tribune dans Le Monde que j'ai trouvée particulièrement horrible, où j'ai vu même que des bons camarades ont signé cette chose en disant « Mais la culture, c'est important économiquement. Faut défendre ça. C'est aussi important que l'économie de l'automobile, etc. » Mais on n'en a rien à foutre de ça, quoi. C'est vraiment catastrophique de défendre ce qui serait du domaine de l'expression sur l'idée qu'économiquement, ça tiendrait le coup. Et on a vu tous ces gens sur les réseaux sociaux mettre des graphiques pour justifier « Ouais, la culture, c'est vachement important. Ça gagne quand même du blé, etc. » Et on voit des gens qui vendent 300 ou 400 disques, qui signent des tribunes comme ça. Mais c'est complètement délirant. Donc on est dans une sorte de mirage assez terrifiant, je trouve. Aussi, sur ces histoires de classe, moi, dans les choses qui sont passées récemment, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a eu une énorme rave party qui a été organisée près de Rennes, tout le monde a entendu parler de ça, où les gens sont condamnés à aller en prison parce qu'ils ont organisé une fête. Et je veux dire, ça, c'est quand même quelque chose qui est terrifiant. Et tout d'un coup, on a ce petit monde de la culture qui ne réagit pas à ça. Il réagit à la saison blanche, au machin, au truc, au droit de l'intermittence, machin, truc. Très bien, il faut le faire. Mais tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous mentent depuis des mois et des mois sur les masques, sur les tests, les vaccins, les trucs... et qui envoient en prison des gens parce qu'ils ont organisé une fête, et qui, le lendemain, ils renvoient 12 millions d'élèves dans les écoles. Et je veux dire, à ce moment-là, la musique qui se joue à cet endroit-là, la musique techno, c'est la musique d'avant-garde. Au sens où, politiquement, c'est la seule musique qui fait chier le gouvernement. Et je veux dire, on devrait être en train d'organiser des trucs avec, justement, nos musiques et des gens qui font de la techno, etc. Parce qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve stupéfiant dans tout ça, c'est aussi de quelle expression va surgir de tout ça. Est-ce que c'est simplement pour qu'on continue tranquillement les petits trucs qu'on faisait avant, la même expression, le même jazz, la même improvisation, le même truc, ou alors il va surgir une expression d'un autre type, comme ça se passe quand il y a des bouleversements, la Première Guerre mondiale, etc., le jazz après, l'impressionnisme après l'Empire, je ne sais pas quoi. Donc, et je me dis, là peut-être... C'est pour ça qu'il y avait l'idée de brèche tout à l'heure. Je me dis peut-être que la brèche, c'est pas simplement parce que nous, on aurait cette espèce d'aristocratie de la brèche qui fait qu'on est dans un art tellement sophistiqué que nous avons le pouvoir de... On a le pouvoir de rien du tout. Il se passe rien, là. Il se passe rien. Il se passe des concerts en streaming complètement déprimants. Enfin, moi, à chaque fois que j'essaie, pourtant, c'est des gens que j'aime, des musiques que j'aime, etc., j'arrive pas. C'est complètement déprimant. J'ai l'impression que... qu'on me vole ce que je suis en train d'aimer au moment où je le regarde. Il y a quelque chose qui est complètement... Je me dis que là, c'est la recherche qu'on pourrait avoir, elle pourrait, sur le plan esthétique, si on veut que le plan esthétique rejoigne réellement ce qui est en train de se passer politiquement, socialement, etc., il y a quelque chose qui serait à travailler avec les éléments qui sont réellement face à nous. Et pour moi, cette fête qui s'est passée près de Rennes, d'une certaine manière, et la question n'est pas de savoir si les gens ont raison ou tort d'organiser des fêtes, on s'en fout complètement de ça. Mais le fait que tout d'un coup, les gens qui organisent une fête se trouvent condamnés à aller en prison, je veux dire, c'est monstrueux, quoi.
Je voudrais déconstruire un petit peu ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de sujets, pour essayer de les prendre un par un. D'abord, rappeler aussi, comme c'est très important aussi, que les teufeurs, les organisateurs de la fête près de Rennes ont écrit une tribune anonyme, bien sûr, qui a été relayée par plusieurs médias, et que cette tribune est particulièrement claire, cohérente, articulée.
Exactement.
Ce sont des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, l'assument totalement.
Ouais.
Donc ça, c'est important aussi, parce que qui dit « tougher », monde de la nuit, on peut dire des gens irresponsables, inconséquents, pas du tout.
Non, non.
Et leur tribune, d'ailleurs, est l'un des meilleurs textes que j'ai lus, issus du monde de la nuit, à défaut de celui de la culture. Et qu'en plus, certains d'entre eux se sont retrouvés le week-end d'après à la manifestation contre les violences policières qui avait eu à Nantes. Mmh. Et les toughers, le monde des toughers, s'est mélangé à d'autres mondes activistes, etc. Donc il y a des formes de convergence, comme on dit depuis longtemps.
D'ailleurs, juste pour faire une petite... Quand il y a eu la dernière manifestation qu'il y a eu à Paris sur la loi sur la sécurité globale, qu'est-ce que les flics ont fait? Ils ont saisi la sono de techno, quoi. Mmh. C'est la première chose qu'ils ont fait, quoi. Ils n'ont pas arrêté quelqu'un qui chantait l'international dans un coin. C'est pas ça, leur problème.
Mmh,
le problème, c'est que tout d'un coup, c'est la sono qui diffuse de la techno. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc, c'est ça qu'il faut soutenir.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres. On vient d'écouter le trio suisse Mono avec le saxophone saturé de Antoine Chessex. Je vous propose d'écouter la suite de la table ronde intitulée « À quoi sommes-nous tenus ?»
Voilà la question que je voudrais première des nombreuses questions que tu as soulevées, vous avez peut-être aussi d'ailleurs des choses à relever dans ce que vient de nous dire Jean-Richard, c'est le fameux monde de la culture ou le rôle de la culture dans la société. Alors, je vais poser la question de façon volontairement naïve. Donc la culture et en particulier la musique, mais pas seulement. Donc quel rôle lui voyez-vous avoir aujourd'hui ? Question qu'on se pose depuis la nuit des temps, bien évidemment, hein, mais c'est des questions qui sont aussi bien de vieilles anciennes et en même temps des choses qui se réactivent en permanence en fonction des contextes. À quoi peut bien servir la culture dans le monde actuel ? Parce qu'on voit bien, et c'est ce que commençait à nous dire Jean Rochard, qu'il y a des sortes de pétitions de principe où, en fait, le monde de la culture, il y a le mot que tu n'as pas employé, archi-subventionné et ayant peur de perdre au final ces subventions, se comporte sagement pour être parmi ceux qui seront des rescapés d'ici un an ou deux. Hein. Ce qui est aussi flingue parfois les initiatives solidaires, qui sont non seulement des initiatives solidaires, mais des initiatives qui parfois se prennent forcément hors système. C'est-à-dire la sorte, c'est la solidarité hors système qui est importante aussi, et non pas la solidarité pour rester dans le système et pour continuer à profiter de ces mannes dont on sait très bien que d'une manière ou d'une autre, et c'était déjà le cas avant cette pandémie, elles vont en se raréfiant. Donc il y a la question de défendre le monde de la culture en soi, parce que la culture, bah, c'est tout ce qu'on nous dit, c'est une série de lieux communs aussi. Hein. La culture, c'est noble, la culture, c'est édifiant, la culture, ça nous élève, la culture, ça nous sort de notre quotidien, avec aussi une forme de mépris populaire aussi. Hein. Les gens seraient donc incapables de sortir de leur quotidien sans la culture. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont voilà, à travers. Et à quel moment, tu parlais d'improvisation tout à l'heure, Pierre, ce qu'il se passe réellement dans les pratiques musicales ou artistiques peut éventuellement avoir des éléments de réponse par rapport à la situation que nous vivons.
Moi, c'est, je vais reprendre tout ce que vous avez dit qui est assez, assez riche. Déjà, pour te donner une réponse très claire, je pense qu'il faut arrêter de parler de culture. Comme le disait Jean, je pense que c'est un terme qui nous perd, qui nous désarme et qui a une fonction très précise, qui a une histoire très précise et qu'il faut absolument s'emparer d'autres termes et réinventer des termes. Et après, sur les, sur notamment tout ce qu'a dit Jean autour de cette fête, pour moi, l'envers de ça, ça a été tout ce discours sur l'idée de la culture, c'est essentiel, qui a quand même été pris en charge par plein de gens dans le monde de la culture, heureusement pas tout le monde. Et c'est-à-dire qu'on a une situation quand même inédite où ce qu'on appelle la culture n'a plus lieu, les arts n'ont plus lieu, on se réunit plus, il n'y a plus de diffusion de plein de choses. La création est, comme on aime bien dire aussi au ministère, est bien empêtrée. Et la réaction, c'est d'affirmer qu'on est essentiel. Mais essentiel pour qui ? Essentiel auprès de quoi ? Essentiel pour faire quoi ? Enfin, c'est une affirmation que moi j'ai trouvée assez étonnante parce qu'on annonce ça, on est essentiel, mais qui l'est ? Il n'y a pas eu de manif que je sache et je le déplore pour la réouverture des concerts de jazz, pour la réouverture des scènes de musique improvisée. En revanche, on voit qu'il y a des formes autres pour lesquelles effectivement les gens se battent. Donc du coup, c'est une question, tu l'as dit, très complexe. Moi, à la place de la culture aujourd'hui, j'ai malheureusement pas de temps d'y répondre et pas la capacité. Ce que je remarque, c'est que le monde culturel est révélé là, dans cette crise-là aussi dans son manque de connexion avec la working class, avec les gens qui ont envie de lutter contre le confinement, contre les restrictions de liberté. Et qu'aujourd'hui, pour moi c'est très clair, et ce que je vois et ce que j'analyse derrière cette idée de « on est essentiel », cette affirmation-là, c'est aussi un déficit d'analyse sur la situation lucide, quoi. Et qu'on ne pourra pas inventer quoi que ce soit si on reste arc-bouté sur ce truc-là. Et c'est un peu pour rebondir à ce que disait, ce qui était dit tout à l'heure. C'est, moi je suis très pour qu'on s'empare des lieux, que les musiciens s'emparent des lieux, mais en même temps... si la creative class devient une propriétaire, est-ce qu'ils sont capitalistes ou est-ce que, comment on devient propriétaire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des squats ou parce que si on est propriétaire des moyens de production, a priori on est capitaliste si on prend ce vocabulaire-là. Donc il y a un moment où toutes ces questions-là, pour moi, elles ne sont pas encore posées alors qu'elles hurlent devant nous. C'est ces questions-là, les questions des luttes, les questions des formes d'organisation, qui sont prioritaires, et j'ai envie de dire que depuis un an, moi, la question de l'esthétique me semble, on a essayé d'y répondre dans les allumés, elle me semble très problématique, parce qu'on n'arrive justement pas à la relier, et qu'il faut d'abord s'occuper de, justement, c'est plus la culture, et là, on a une urgence à inventer d'autres formes, d'autres organisations, peut-être avec d'autres gens et avec d'autres mots.
Avant de passer la parole à Raphaël Tchamitian, peut-être Jevi veut répondre à qu'est-ce que ferait cette creative class, si elle devenait propriétaire terrienne ou immobilière à son tour, elle se comporterait comme les actuels propriétaires ou elle ferait les choses autrement ?
If the creative class becomes the owner, the owner class, what will they do? Will they become capitalists? Will they become working? How will the creative class become owner?
I mean, it's very complicated. I think we have, for me, I would, we have to become working class, and then we have to throw capitalism away when we become the owners. And it's very hard. It's very hard.
Yes, it is.
It's very hard. But it's what my staff is. Because I think there's only freedom in sharing.
Yeah.
You know, if you hoard, you're always looking around, wondering who is going to take what you have. So there's only freedom in sharing. And I think we need to say that again and again.
Mm. Yeah. La réponse de Jeffy Montgomery est assez simple. Au départ, hein, il faut que la créative classe devienne la working class, hein, ou une nouvelle forme de nouvelle classe pour virer le capitalisme, même si, évidemment, comment s'y prendre, ça, c'est une autre paire de manches. Mais il ajoutait surtout que le plus important, c'est évidemment qu'il ne se comporterait pas, lui ou ceux qu'il pense, de la même façon que les actuels propriétaires, tout simplement parce qu'il faut le dire et le répéter, hein, il n'y a de liberté que dans le partage. Quand vous possédez, on pourrait le traduire la deuxième partie de son syllogisme presque de cette manière-là, hein. Si vous possédez, vous possédez toujours jalousement, alors qu'il n'y a de liberté que dans le partage. Raphaël, après toutes ces tirades, mais je reviens à la question précédente, on va reparler forcément là tout de suite de l'essentiel et du non-essentiel, puisque ça a été glissé dans différentes réponses, mais...
Moi, effectivement, j'ai tendance à suivre un peu Pierre et Jean dans l'idée qu'au contraire de défendre la culture comme un objet essentiel, ou voire même un produit essentiel, on pourrait défendre l'idée qu'à l'inverse, c'est quelque chose de complètement vain, et que c'est pour ça que c'est intéressant, et que c'est pour ça qu'il faut que ça survive, et que ça prospère, et que ça nous habite dans nos quotidiens. Après, je me pose beaucoup de questions et j'ai pas vraiment de réponse, comme nous tous, je pense. Malheureusement, je suis un peu pessimiste sur la suite des choses. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va pouvoir inventer d'autres formes d'expression, peut-être réinventer ce qu'est la culture. Ça me paraît un chantier tellement énorme que j'ai du mal à voir comment est-ce que je... par quelle boule prendre, en fait. Et je serais assez curieuse de savoir ce que toi, tu t'imagines, par exemple, à la place du mot culture. Peut-être on pourra y revenir. J'ai tendance à avoir un peu de la sympathie aussi pour les gens qui font ce qu'ils peuvent et qui survivent en faisant du streaming. Et moi aussi, j'ai regardé des trucs en streaming et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'était appauvri par rapport à ce que je connais du spectacle vivant, évidemment, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir aussi une forme de sympathie pour ce qu'ils font, parce que, à un moment, il faut bien survivre, il faut bien se démerder, il faut bien avancer comme on peut. Et j'ai du mal à projeter autre chose qu'un retour à une forme de normal en pire après la pandémie. Mmh. Et je pose ça là, non pas comme un constat défaitiste et pessimiste, mais plutôt comme une sorte de question ouverte. Très concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors évidemment, il y a la question de la propriété qui se pose là, mais en France, elle se pose sous des termes qui sont complètement différents, qui n'ont vraiment rien à voir, il me semble.
Mais peut-être... pardon, vas-y.
Non, mais c'est juste sur ce que tu disais. Moi non plus, j'ai malheureusement trop peu de réponses. J'ai commencé en disant que je me sentais impuissant. Moi, je pense, puisqu'on parle depuis tout à l'heure, grâce à JV, de working class, creative class, c'est quand même assez frappant à quel point, justement, il y a des formes, pour le coup, très anciennes qui sont jamais ou trop peu faites dans la culture, et encore moins, j'ai l'impression, dans certaines musiques. On pourrait décider, justement, de ne pas participer. Il y a un truc qui s'appelle la grève. Si on est la working class, on peut dire « on refuse ». Cette question de la négation, du refus, c'est comme si c'était un tabou incroyable. Et alors que c'est un moyen de lutte assez classique, on n'est pas dans la grande révolution, etc. Et j'ai pas entendu là depuis un an les gens dire je refuse le streaming. Enfin, ces prises de position là ne sont pas faites. Et moi, tu as raison, et je n'ai pas de réponse à comment ce chantier de réorganiser la culture, la repenser. Je n'ai pas un mode d'emploi comme ça que je peux distribuer. Mais en tout état de cause, il y a peut-être à réfléchir à comment on se positionne par rapport à ça et remettre en cause des attitudes, des comportements. Je suis assez frappé sur, du coup, puisqu'on accepte, puisqu'on refuse jamais, par exemple, les choses se font malgré nous. Ça fait un an que malgré nous, on est en train de dire ça ne va pas, le streaming ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas, le gouvernement ferme des lieux, le gouvernement prend des décisions extrêmement lourdes sur l'art, sur la culture, et malgré tout, on cherche dans les formes choisies par le gouvernement ou parfois par l'industrie dont parlait Didier Petit, et on n'invente pas et on ne refuse pas. Et je trouve que là, il y a déjà un truc assez concret qui serait à discuter et à réfléchir. Est-ce que un musicien aujourd'hui... Moi aussi, j'ai énormément de sympathie et je n'accable personne aujourd'hui parce que c'est trop dur. Mais pourquoi il n'y a pas ces réflexions-là? Pourquoi il n'y a pas collectivement une organisation qui dirait est-ce que, oui ou non, on doit ou pas faire des concerts en streaming?
Oui, en fait, il y a une question qui me semble assez importante parce que c'est plus que qu'est-ce qu'on va gagner ou qu'est-ce qu'on va gagner la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on est capable de perdre pour que quelque chose de bien se passe? Et ça, je pense que cette question-là, on ne se la pose pas, en fait. On est toujours en essayant de gagner un petit truc par rapport à ce qui se fait. Voilà. Mais, je veux dire, quand on a vu les gens dans les ZAD et tout ça, on a vu clairement que ces gens qui défendaient des choses très précises, finalement, hein, l'existence d'une forêt, etc., ils étaient prêts à perdre beaucoup pour ça. Donc, c'est pour ça que parfois, je suis un peu gêné quand on me dit « Ouais, tu sais, aller à un concert en ce moment, c'est de la résistance. » Non, franchement, non. Quoi. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un grand acte de résistance. C'est un truc éminemment sympathique. J'adore ça personnellement, mais ce n'est pas là que ça se joue. Alors, en plus, sur le terme « culture », puisqu'on est complètement submergé par ce truc, il y a même un ministère pour ça, justement un ministère qui vient de malentendus historiques et tout ça, et de précédents quand même extrêmement fâcheux, c'est-à-dire que c'est un mot qui est utilisé dans l'Italie de Mussolini, l'Allemagne nazie, l'URSS de Staline, c'est-à-dire que c'est là que le mot culture, il est hyper puissant. Dans les autres pays, à ce moment-là, on a des ministères des Beaux-Arts, de l'éducation populaire, etc., tout ça. Et tout d'un coup, on arrive dans ce truc. Et puis, avec des choses complètement... Enfin, je sais pas si vous avez entendu Roselyne Bachelot à la radio, ça dépassait les limites de la décence. Mais je les aime, les artistes, la culture, on en a besoin.
Elle les défend même avec ses tripes.
Oui, elle les défend avec ses tripes, en pleurnichant. Bon, je veux dire, c'est absolument insupportable, en fait. En plus, la culture, si on regarde un petit peu... Enfin, toi, tu es anthropologue, tu vois très bien de quoi il s'agit. Quoi. C'est pas simplement de se livrer à des activités artistiques, qui est une autre définition. Le mot « art », c'est une chose en soi. Quoi. Les gens naissent et commencent à faire des choses, et à partir de ce moment-là, la culture se met en route, si je ne m'abuse. Donc, ce n'est pas simplement de jouer d'un instrument, de peindre, de filmer, etc. Et puis, qu'il y aurait un monde de la culture et qui lui-même finit par se penser donc comme une creative class ou une espèce d'aristocratie comme ça, qui aurait un petit peu aussi des droits parce qu'elle serait simplement ce monde de la culture. Ça ne va pas. Moi, je n'ai pas envie de défendre des choses sur le fait... que j'appartiendrai à ce monde-là. J'ai envie de défendre des choses parce que je suis un être qui vit dans une société et ça me suffit. Je veux dire, j'ai autant de points communs avec mon boulanger qu'avec les musiciens avec qui je travaille.
Alors, évidemment, il y a encore une multitude de sujets qui s'accumulent, mais c'est normal. Hein, on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. Je ne mets certainement pas ce que tu viens de dire, Jean, et notamment je relève en passant que c'est aussi une partie de l'histoire des avant-gardes artistiques depuis le 19e siècle. Que de vouloir reverser dans la vie absolument. Les pratiques artistiques et les sortir du milieu des beaux-arts jadis, de la culture exactement. Désormais. Hein, donc ça, faut jamais l'oublier. C'est les avant-gardes qui rythment la vie de l'Occident depuis le 19e siècle et jusqu'à encore récemment. Donc on va revenir sur cette question-là, y compris sur ce que tu disais, Raphaël, sur le vin ou le non-essentiel. Hein. J'y reviens dans un instant. Mais comme plusieurs sujets s'ajoutent les uns aux autres, je me tourne... Maintenant, c'est une boutade. Hein. Je me tourne vers Fabien Simon qui nous a rejoint à table, qui est donc le directeur de Son Divers, bien sûr. Et je sais que tu t'es posé beaucoup la question maintenir, ne pas maintenir, que faire. Voilà, donc tu as fini par prendre un certain nombre de décisions, tu peux nous dire lesquelles d'ailleurs, et pourquoi ça t'a semblé important de maintenir toi dans l'état actuel des choses dont on est en train de faire un peu le bilan provisoire.
Je pense qu'il y avait un besoin presque égoïste d'avoir besoin de faire quelque chose et d'avoir l'impression que dans la période qu'on traverse... on n'est pas inexistant, qu'on n'a pas disparu totalement de la carte, comme si, pas forcément comme si on avait de l'importance, mais parce que avant d'être notre métier, c'est d'abord notre passion, et que personnellement, moi, j'en peux plus de rester chez moi à réfléchir. Je me construis plus dans le faire que dans peut-être que dans le penser, mais pour autant, toute cette période, évidemment, pousse à la réflexion. Je pense que la situation qu'on vit là en janvier n'est pas la même que celle qu'on vit effectivement en avril, où effectivement, en avril, je ne me posais pas du tout les mêmes questions que ce que je me pose aujourd'hui. Je pense que c'était une discussion aussi avec l'équipe. On ne se voyait pas ne rien faire. C'est-à-dire se dire, bon, on ferme la boutique et on se donne rendez-vous en 2022, peut-être, parce qu'après tout, on n'en sait rien. Donc, est-ce que ce silence doit être maintenu? Est-ce que c'est en restant silencieux qu'on combat, qu'on essaye de combattre quelque chose, ou c'est en faisant des choses modestement, hein? Peut-être que on s'est dit qu'on allait retourner à quelque chose de simple. Didier tout à l'heure parlait de small is beautiful. Peut-être que revenir à une forme d'artisanat, de faire des plus petites choses avec moins de monde, mais sentir que ce qu'on fait a quand même du sens. C'est ça qu'on s'est dit. Après, évidemment, il faut se débattre sur les formes que ça peut prendre. J'avoue que je me suis aussi posé beaucoup de questions sur le streaming, etc. On s'est tous posé beaucoup de questions sur ça. Et toi, Alexandre, aussi, j'imagine, avec The Bridge. On essaye de trouver notre chemin là-dedans, et en parlant avec les artistes aussi, de voir qu'est-ce qui pourrait avoir du sens quand même dans cette situation. Au final, on va faire un peu de radio, on va faire un peu d'image, on va faire un peu de photos, on va discuter un peu, et puis on va voir si tout ça amène à, si ce n'est élever le débat, au moins à nous faire un peu prendre mieux conscience de ce qui se passe et de ce qu'on pourrait faire. Et voilà, je pense qu'effectivement, on se pose tous plein de questions. Je n'ai moi non plus pas forcément de réponse à tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'il est... J'ai lu le très bon dossier des Allumés du Jazz, où ça me fait réfléchir aussi beaucoup. Et j'ai vu que les avis étaient effectivement très partagés, et que certains artistes disaient, moi, je préfère effectivement... Non, ce qu'on fait, ce n'est pas essentiel. Je préfère rester chez moi, jouer de mon instrument chez moi, et attendre qu'on puisse rejouer devant des gens. Il y en a d'autres qui se débattent avec des formes qui ne sont pas forcément tout à fait acceptables pour eux, mais qui aussi ne peuvent pas accepter cette idée de ne rien faire. Je pense que ça dépend beaucoup des gens, des caractères, des personnalités des gens, et que personne n'est à blâmer dans cette situation. Mais qu'on se débat tous dans plein de contradictions aussi. Et voilà, tout ça c'est compliqué, mais on a essayé de trouver un chemin étroit, en proposant des formes modestes, maintenant du lien, garder le contact aussi avec certains artistes, que ce soit français ou américain, ou européen, ou de partout, de passer des commandes de pièces radiophoniques, de parler de les faire parler aussi, de pas forcément de ce qu'on vit aujourd'hui, mais peut-être justement de sortir de cette instantanéité, de sortir de ce moment où on parle que de ça, et de peut-être essayer de parler autre chose. Mais c'est compliqué aujourd'hui de se dégager de cette situation qu'on vit. sont divers modestement, essayent de trouver une place, on va dire, dans cette période où les possibilités sont finalement très réduites. Et je ne sais pas si au final tout ça sera satisfaisant pour nous et pour les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, mais on essaye, quoi. On reste vivant.
Au fond, peut-être que les possibilités sont immenses. Au fond, c'est peut-être ça dont on ne s'est pas rendu compte. Non, je viens d'y penser, là. Donc,
finalement, en tout cas, on est amené à se poser des questions qu'on ne se posait pas en tant qu'organisateur. Et d'essayer de... Effectivement, sans doute, il y a aussi, je pense, une... On s'empêche beaucoup, en réalité. Et le fait, ce qui, à mon avis, pose problème, c'est peut-être l'institutionnalisation de nos métiers. Et que, du coup, on s'empêche beaucoup de désobéir, notamment, parce que, entre guillemets, l'institution nous tient. Et c'est une vraie question. Je me suis moi-même posé la question. Est-ce qu'on doit tout foutre sur la table et dire on fait quoi qu'il arrive, on n'est pas allé jusque-là, c'est la réalité des choses.
Oui, parce que ça par contre, effectivement, tu as raison de le mentionner, et je pense que c'est presque l'élément essentiel dans cette histoire, c'est le fait d'être tenu par la barbichette. Parce qu'au fond, sinon... Toutes les choses dont on parle, d'aller vers le small is beautiful, ça existe depuis longtemps. Les gens le font, ils le font à la campagne, font des concerts dans des granges, dans des machins, des petites assos, tout ça. Sauf qu'il n'y a pas d'argent. C'est tout. Mais tout ça, on peut le faire. Si on accepte de faire les choses sans argent, ça marche très bien. Par contre, si on veut rester dans le système, donc dans la creative class, là, il faut faire un certain nombre de... compromis qui, au départ, ont été des compromis, je dirais, après l'apparition de Saint Jack Lang au début des années 80, qui est apparu au monde de la musique et qui a fait que le jazz est devenu une chose tout à fait nouvelle, qui se souvenait plus du tout de son passé, etc. On a beaucoup parlé de jazz français, par exemple, à ce moment-là. C'est-à-dire... Et on revient dans des choses aussi incroyables, hein. Moi, j'ai parlé, par exemple, avec un organisateur de concert qui m'a dit « Cette situation, ça va nous permettre de nous concentrer sur le jazz français et de l'aider davantage. » Je trouve que c'est une chose terrible, quoi. Parce que, enfin, moi, je suis très no-border, hein, en l'occurrence, et tout ça me paraît complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, effectivement, si on veut se débarrasser de ce qui... Si on parle encore de jazz et qu'on veut se débarrasser de ce qui est l'origine même du jazz, il faut arrêter de jouer certains types de musique. Et puis, ça sera beaucoup plus simple quand même. Je pense quand même à cette tribune que j'ai trouvée vraiment très problématique de musiciens, musiciennes, gens de culture, organisateurs, etc., sur le fait de se verdir davantage, hein, arrêter de voyager, jouer là où on est, etc. Tout ça ne reposant sur aucune étude, en fait, de qu'est-ce que ça représente réellement dans la consommation d'énergie, tout ça. D'ailleurs, si on voit ça d'un point de vue scientifique, c'est complètement abstrait. Il s'agit de culpabiliser le mec qui a un concert tous les 6 mois et qui va être obligé de faire un long trajet pour le faire. Bon, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent toutes à la fois. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. C'est-à-dire que c'est vrai que si on est prêt à perdre un peu, beaucoup, passionnément, on va être capable d'aller plus loin aussi, peut-être. Je parlais de ça avec un musicien récemment qui m'a dit « Oui, mais moi, tu sais, le mythe de l'artiste maudit, c'est pas mon truc et tout. » Bon. Voilà. Donc, je pense que c'est on parle de racheter les terres pour construire les endroits où on jouera, etc. Mais en fait... De par l'institution, ces terres, elles existent. Elles existent déjà, et il y a des gens qui vivent, etc. Alors, des gens qui se débrouillent assez adroitement pour faire des choses un petit peu juste à la limite de ce qui est possible et tout. Et puis, la question de parce que ce même musicien me disait, moi j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours. Moi, personnellement, je n'ai jamais pensé que j'ai toujours pu faire ce que je voulais, hein, mais il n'y a pas que la question de la création, il y a la question de la perception aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut faire. Une musique qui serait supposée subversive, etc., est présentée d'une certaine manière, on l'a vu justement, on parlait de Saint-Jacques Lang tout à l'heure. Quand on a dit à des graffeurs, tu as deux solutions. Tu continues à faire tes graffes sauvages et tout ça. Là, c'est direction le juge. Ou alors, je te donne de l'argent, je mets ça dans une galerie. Qu'est-ce que tu préfères ? Hein, c'est quelque chose qu'on a vu se passer. Et je pense qu'on l'a vu se passer aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on a quand même vu une mutation assez grande, par exemple. Alors, si on parle de free jazz, par exemple, dans toutes les fêtes politiques qu'on a vues de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, si on regarde les affiches, on a toujours des concerts de free jazz, etc., dans toutes les fêtes anarchistes, trotskistes, communistes, etc., toujours. Et après, tout ça a complètement disparu, quoi. Et jusqu'à ne plus exister du tout. Hein, c'est-à-dire le grand acte politique du monde de la culture, ça a été un moment de se mobiliser pour dire qu'il fallait voter pour Jacques Chirac, par exemple. Et puis, dans une moindre mesure, pour Emmanuel Macron, quoi, contre une sorte de grand danger, un peu comme ça, un peu assez imaginaire, finalement.
Élantisme, automatisme, béritisme, athéisme, népotisme, pacifisme, mérisme, agricorisme, magnétisme, exorcisme, universalisme, parachutisme, entrisme, fascisme, colonialisme, narco-jansénisme, népotisme, parachutisme, régionalisme, virulisme, cosmopolitisme, gargarisme, sionisme, bonapartisme, capitalisme, obscurantisme, anarchisme, automatisme, christianisme, cynisme, athéisme, loyalisme, surréalisme, laxisme, prisme, nihilisme, existentialisme, charisme, monisme, dadaïsme, monomérisme, radicalisme, impressionnisme, colonialisme, gauchisme, érotisme, positivisme, réélantisme, zionisme, catachisme, situationnisme, terrorisme, négationnisme, constructivisme, pessimisme, rationalisme.
C'était Tot de l'ami Stéphane Payen, le morceau Félixisme sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans l'émission Les Oreilles Libres. On termine l'écoute de la table ronde À quoi sommes-nous tenus dans le cadre de Sons d'hiver en janvier dernier, animé par Alexandre Pierrepont.
Alors je vais revenir aussi sur plusieurs choses qui viennent de se dire. Fabien, tu nous disais qu'il y avait une importance du faire, d'un faire réfléchi, bien sûr. Hein. Pierre, plus tôt, tu nous parlais d'impuissance. Et de déficit à différents égards. Alors, qu'est-ce qu'il est malgré tout encore possible de faire ? Moi, je pense que c'est une question, et peut-être pas donc au nom de la culture, mais au nom des pratiques humaines, symboliques et autres, peu importe, on peut les qualifier de quantité de manière, à vrai dire, hein, et qui ont un sens particulier, avant qu'un quelconque milieu vienne les recueillir et éventuellement les étouffer, comme tu nous le disais, hein, Jean. Donc, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire ? Qu'est-ce que, et même éventuellement si c'est non essentiel, et pourquoi ça le serait non essentiel ? Parce que tu vois, ça me pose un problème, le non essentiel. C'est-à-dire que, effectivement, d'un certain côté, et par rapport à cette division, à cette dichotomie que nous a imposé le gouvernement et ses médias, j'aurais envie de dire, oui, pourquoi pas défendre le non essentiel, à vrai dire. Hein, si l'essentiel pour eux, c'est ça, voilà. Et d'un autre côté, et c'est ce que j'essayais aussi d'avancer un petit peu tout à l'heure, il y a dans les musiques que nous défendons depuis toujours, free jazz ou pas, hein, qu'on appelle jazz, free jazz, ou creative music, ou improvised music, ou peu importe les termes. Il y a un certain nombre d'éléments que nous savons tous pour les aimer, ces musiques-là, pour les avoir observées, pour les jouer, pour certains d'entre nous. Hein. C'est qu'on y parle depuis toujours d'un son of surprise, c'est-à-dire qu'on aime la surprise, on est censé aimer la surprise dans ces musiques-là. Et c'est pas simplement lié à l'improvisation, hein, c'est tous les accidents sonores, quelque part, sont les bienvenus, et donc on développe des formes de réactivité. D'adaptabilité, pas darwiniste, mais d'adaptabilité. Normalement, c'est ce que font les musiciens dans ces musiques-là depuis 150 ans. Hein. On sait aussi que c'est des musiques qui vivent très très bien dans le monde, qui n'ont pas besoin de se cacher dans des salles obscures, hein, et qui aiment aussi se jouer dans l'environnement, d'où les granges dont tu parlais. Il y a certaines musiques qui doivent, pour exister, se couper du monde. Là, on est dans une musique qui peut le faire, si, voilà, pourquoi pas, et elle le fait assez bien d'ailleurs, hein, comme dans des festivals comme Sondéver, mais il y a aussi des moments où elle est jouée au bord d'une autoroute, au bord d'un ruisseau, dans l'espace, comme Didier Petit avec son Cosmocel. Hein, ce sont des choses qui se font, donc en fait, elles peuvent se jouer partout et n'importe où et tout le temps. On sait depuis longtemps que ce sont des musiques coopératives, égalitaires, pas égalitaristes, mais égalitaires, où les rapports de coopération sont privilégiés sur les rapports de compétition, même s'il y en a toujours un peu, bien sûr. On ne peut pas s'abstraire des rapports de force. Hein. Et puis que ces musiques-là, sous couvert d'improvisation notamment, elles ont le sens de l'émerveillement. Elles ont même plus que le sens de l'émerveillement, elles ont le goût de l'émerveillement. Au sens propre, au sens figuré, donc. Hein. Elles en ont le goût, et puis elles le cherchent, et elles le retravaillent. Quand on voit tout ça, et c'est juste une petite série qui m'est venue en tête aussi en vous écoutant, hein, on se dit, ben voilà, non pas ces musiques ont la solution, bien sûr que non, hein, mais dans les pratiques, pas simplement dans leur promotion, donc, hein, dans leur packaging, en quelque sorte, dans les pratiques de ces musiques-là, il y a des choses qui pourraient être comme des vitamines, pour ne pas dire des vaccins, hein, qui pourraient être comme pour des vitamines pour nous remonter le moral et nous donner de l'inspiration à faire des choses dans le contexte actuel. Et j'ai du mal parfois à comprendre, alors que tout ce que je viens de dire là, je ne l'ai pas inventé, d'autres l'ont dit avant moi. Je ne vois pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi une translation ne se fait pas entre le contenu réel de ces musiques et, sous prétexte qu'elles ont été marketées d'une certaine manière, on va appeler cet affreux néologisme, hein, anglicisme, sous prétexte qu'elles ont été marketées d'une certaine manière depuis quelques décennies maintenant, elles sont littéralement anesthésiées dans ce qu'elles contiennent réellement de pratiques humaines.
Le cadre.
Je peux juste dire un mot par rapport à ça, c'est que par exemple tu disais effectivement la pratique de ces musiques peut se faire partout, c'est vrai. Personnellement, j'irais jamais demander à un musicien d'aller jouer dans le métro ou d'aller jouer dans la rue. Ça doit venir de lui, c'est-à-dire que la vérité aussi, c'est que dans cette période, aucun musicien, aucune musicienne n'est venue me voir en me disant j'aimerais faire autre chose, aller jouer devant d'autres gens, jamais. On m'a proposé ça. Nous, on reçoit les desiderata aussi des artistes et jamais c'est venu. Ça veut dire aussi quelque chose que effectivement ces musiques ont peut-être perdu de leur sens premier, de leur sens initial, de ce rapport à la vie quotidienne des gens. Dimanche, on parlait avec Doudou Kouaté, on était au musée du Quai Branly et on parlait des œuvres d'art et il disait que effectivement lui, il a grandi au Sénégal et la musique, pour lui, fait partie de la vie, dans le sens où ça rythme des cérémonies, des moments de vie, des rites de passage. Chez nous, quel sens a encore la musique dans notre vie, si ce n'est d'être des auditeurs ou des consommateurs, entre guillemets? Et peut-être que c'est ce rapport-là, on va dire, le rapport de la musique, mais plus généralement de l'art dans notre vie quotidienne, qu'il faut retrouver. Alors, de la part des organisateurs comme moi, mais de la part des auditeurs aussi, et de la part des artistes, peut-être avant tout.
J'ai vu, parce qu'il nous reste un musicien sous le coude, j'ai vu, would you see yourself, I know you do that on your own, playing anywhere, and into the wild, nearly. Would you see yourself going to an organizer, a promoter in the States, and asking him to help you to organize that as a gig, a real gig, or is it a personal practice and you don't wait for no one to do it?
Yeah, I'm personal practice. Asking to organize is just not my way. Because as soon as you add other people, it becomes a difficult task, because then people want to know, are you making money? Is this commercial? Our right to assemble becomes questioned when you organize. Yeah, when you organize, you are stopped from organizing. But yeah, just personally, it works for me to, as an individual, take my music into public places, because music is very natural and shouldn't need a team to bring it to life. you know, this is something like walking and talking and going to the bathroom. We should be able to do it responsibly without hurting others and without official organizing. One of my favorite things to do is explore sculpture spaces, man-made built environments like tunnels, and the latest place I've been playing in was a TNT magazine, a TNT magazine. And the design is called a Corbetta design. So it's like a honeycomb dome shape. And it's magnificent. I've recorded maybe 12 hours in this space, and I plan to put out an album. But it's the sort of thing that I do when I go into, say, a Richard Serra sculpture. The builder, the maker, and the citizen have a relationship. The builder makes space for the citizen, and myself as the citizen, it's my responsibility to fill the space with sound. So I feel like that's what I'm doing in the Richard Serra sculptures, but that's also what I'm doing on Earth. You know, the universe created me, so I create inside the universe.
L'univers m'a créé, donc je crée à l'intérieur de l'univers. Hein, on va aussi recommencer par la fin parce qu'elle était bien celle-là et qu'il ne faut pas l'oublier. Mais donc la réponse initiale à la question, c'est que non, évidemment, il ne demande pas quand il va jouer ailleurs dans la nature ou dans des lieux publics, hein, il ne demande l'autorisation à personne. Il ne se verrait pas, Jevy Montgomery, demander qu'on l'organise pour lui. Ce serait presque comme faire la mendicité. Hein, et puis ce serait s'exposer à des complications parce que les autres voudraient savoir s'ingérer et organiser. Voilà. Lui, il amène. Et c'est vraiment comme ça qu'il l'a dit, hein. Il l'amène, c'est même pas qu'il va la jouer ou qu'il l'apporte, il l'amène sa musique comme si c'était une entité dans les lieux publics, parce que pour lui la musique c'est quelque chose de naturel. À la limite elle devrait même pas avoir besoin d'une logistique, hein. Ce serait comme de marcher, parler, aller à la salle de bain, peu importe. Et il a des endroits privilégiés pour le faire, donc indépendamment de sa carrière sur scène bien sûr, hein. Il adore beaucoup les tunnels, les espaces très résonnants évidemment au saxophone, hein, ou à la flûte. Donc il adore beaucoup les sculptures ou les constructions métalliques et les tunnels. Il alors allé jouer là récemment, il est allé jouer sous un dôme un peu en forme de licorne. Il a fait un enregistrement de 12 heures là-bas, pas consécutive, dont il s'apprête à sortir un disque. Et d'ailleurs, il voit ça d'une certaine manière comme une sorte de donnant-donnant, un peu comme avec l'univers, hein. Le constructeur, aussi bien de la sculpture que de l'architecture, c'est celui qui crée un espace pour les autres. S'il a créé un espace pour les autres, c'est le devoir du citoyen que de remplir cet espace à sa manière à lui. Et de la manière à lui, pour Jevy Montgomery, c'est la musique, évidemment. Voilà. Donc ça donne peut-être des idées ou des possibilités, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure.
Ouais, bah, je vais essayer de rebondir sur plein de choses qui ont été dites, et, bah, sur ta question à laquelle répondait aussi JV. Le débat, enfin, l'espèce de tension comme ça entre l'esthétique, en l'occurrence le musical, et ce qui se passe au-delà. Moi, c'est comme plein de gens, une question qui me préoccupe beaucoup et sur laquelle j'ai malheureusement pas assez de réponses. Mais ce que je dirais là, à l'issue de cette discussion en ce moment, c'est peut-être que ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi ces musiques qui devraient être des ressources finalement n'arrivent pas à l'être, et je pense que ça date pas d'il y a un an, malheureusement. Mais moi, il y a un truc qui me frappe quand même, c'est qu'on s'est laissé gagner. Alors, je sais pas si c'était Saint-Jacques Lang ou encore avant ou après. C'est quand même laissé gagner aussi à une perception de la musique. Alors là, je dis ça, c'est vraiment un feeling personnel, c'est pas plus de valeur, mais le discours dominant à mes yeux sur la musique est devenu un discours superficiellement de paix, c'est-à-dire superficiellement de ça nous rassérène, c'est un discours qui nous réunit et qui ne fait pas problème, c'est-à-dire que l'esthétique en soi, telle qu'elle est conçue dans le discours des acteurs musicaux, quoi, les musiciens, les organisateurs, les critiques, les producteurs, tout le monde, comme si l'évidence était que la musique devait nous rassembler de façon, voilà, comme si c'était une essence, quoi, peut-être pas essentielle, mais en tout cas il y a cette essence-là. Et je pense que d'une certaine manière, tant qu'on n'arrivera pas à se rebattre dans l'esthétique, à réinjecter du conflit, une forme de discorde et un refus d'organiser, et tant qu'on n'arrivera pas à sortir de cette espèce de pseudo-consensus qui, moi, me semble un peu écrasant, qui vise à dire toute musique, finalement, sauf les musiques commerciales, bien sûr, puisqu'on est un peu aristocrate, toute musique produit quelque chose qui nous élève, quelque chose qui est d'un autre monde, d'une autre dimension, bah, comment on peut aller dans le monde ? Comment on fait ? C'est-à-dire que moi, je veux dire, la question de l'action, et Fabien, c'était assez intéressant ce que, je trouve ce que tu disais. Dire, là, on est pris dans un cadre où l'action légale, elle est insatisfaisante et limitée, mais il faut quand même faire des trucs dedans. On se pose la question de l'action illégale et on a du mal à se la poser, et c'est pas le lieu pour s'en divers, etc. Mais bon, je pense que c'est une question centrale. Mais sur le lien entre l'action politique, sociale et l'esthétique, pour moi, c'est faut peut-être réfléchir à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une essence dans ce qu'on fait de nous rassurer ? Moi, j'aimerais bien avoir plus de musiciens qui disent « je suis là, je suis un peu là pour vous faire chier, en fait. Je suis un peu là pour vous titiller et en fait, je m'en fous que, que ça vous plaise pas. » Enfin voilà, je peux provoquer ces émotions-là. Moi, c'est un truc que je ressens. Alors, je sais pas, s'il n'y a pas d'études, c'est fondé vraiment sur un feeling personnel. Mais je trouve qu'on a, en fait, on a dépolitisé, on a apolitisé le discours esthétique. Et que la première chose à faire, c'est peut-être de réfléchir à comment on appréhende collectivement, personnellement, l'esthétique. Et en acceptant sa part aussi de conflit.
Ouais, je pense à. Enfin, je pense au concert que faisait Cécile Taylor à une époque. C'est Sam Rivers qui me racontait ça, où il huait le public, en fait. Quand il trouvait que les gens étaient dans la salle, ça n'allait pas. Et il faisait « Wouh !» Il se mettait sur le bord de la scène, il huait le public. Et je pense aussi à Peter Brotzmann qui disait « Pourquoi je joue fort, en fait ?» Parce qu'à un moment, quand on a fait de la musique, on devait jouer fort pour ce que nos parents avaient été pendant la période nazie, en fait. Donc, c'était absolument indispensable de jouer fort. Donc, je crois qu'on a des moments de rupture où effectivement, la question n'est pas cette chose merveilleuse du consensus œcuménique, dont on nous parle toujours beaucoup, ça réunit, effectivement, C'est très pesant, alors que ce n'est pas la question qui se pose, je pense, au moment de l'émergence du free jazz, par exemple, encore moins au moment de l'émergence du mouvement punk, qui est une espèce d'arrêt brutal sur quelque chose qui est en train de partir en couille de partout, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de choses à reconsidérer, mais peut-être que c'est pas si difficile au fond.
Et peut-être que c'est exaltant.
Oui, ça pourrait être exaltant, mais aussi c'est des questions de compagnonnage aussi. C'est-à-dire quand tu dis les musiciens vont pas me demander effectivement de jouer dans le métro, évidemment, ça serait complètement déplacé. Mais peut-être que parce que tu fais, représente, etc., tu peux aussi peut-être amener quelque chose auquel les gens n'auraient pas pensé, je ne sais pas. Et c'est là, oui, c'est que c'est question de compagnonnage, mais certainement pas vers une sorte d'unité. Parce qu'en fait, cette idée d'unité, c'est ça qui nous... et puis on arrive aussi à ce truc d'unité et tout ça, et qu'on nous bourre le mou avec ce truc d'union sacrée aussi, hein, politiquement. Hein, c'est-à-dire que nous sommes une nation, nous sommes forts, nous allons faire face au virus.
Nous sommes une nation de 66 millions de procureurs.
De procureurs, oui. Donc c'est vraiment étouffant, en fait, ce truc d'unité, d'être tous pareils, justement... parce que sinon c'est le séparatisme et tout. Moi, j'adore me séparer du reste à des moments. Hein. Donc, il y a toutes ces choses et qu'on.
Mais je pense qu'effectivement, et d'ailleurs l'essentiel, le non-essentiel. On n'a pas parlé de l'absentiel et du présentiel.
Du différentiel.
Toutes ces notions utilisées à tort et à travers. Par le gouvernement et ses médias, encore une fois.
Mais ça, c'est leur boulot d'utiliser des trucs.
Oui, mais ça oblige quantité d'individus et d'organisations à se positionner par rapport à ça, alors que parfois, elle n'y avait pas pensé, parfois si, quand même, hein, bien sûr, il y a quand même une histoire dans cette musique-là. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de consensus sans ce qu'on appelle dissensus. On a créé ce néologisme-là il y a quelques années pour, par contraste. Hein. Il n'est pas très joli à l'oreille, mais il veut dire ce qu'il veut dire aussi. Effectivement, la vie est faite, c'est ce que j'appelais un rapport de force tout à l'heure, est faite d'autant de consensus que de dissensus. Je pense aussi que les musiciens, le fait que les musiciens aient été muselés, particulièrement les musiciens de jazz et d'improvisateurs, c'est ce que me disait William Parker un jour, hein, c'est normal qu'il y ait autant une police du jazz alors qu'il n'y a pas une police du reggae ou une police du rock. Mmh. Hein, c'est qu'il y a tellement de liberté dans les musiques que l'on pratique, il faut bien qu'il y ait une police pour nous surveiller. Je pense que d'une certaine manière, ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que les musiciens ont vécu leurs idées, beaucoup d'entre eux, les musiciens et musiciennes, ont vécu leurs idées, leurs convictions politiques en dehors de leur propre pratique musicale. Hein, moi, il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, de passer Place de la République et de voir la petite nuée d'un black bloc se désagréger. Et aux surprises, lorsqu'ils ont retiré leurs affaires noires et leurs masques, il y avait deux musiciens d'improvisation qu'on ne nommera pas à l'antenne, donc, qui étaient dans d'autres formes d'activité. Coupables, évidemment.
J'appelle Didier Lallemand immédiatement.
S'il te plaît. Je voudrais terminer juste, puisque que bientôt, en m'inspirant de quelque chose qu'a dit Raphaël, donc si tu veux commencer, ça serait super. Tout à l'heure, tu as parlé de pessimisme, et c'est bien compréhensible hein, que tu avais, au début de notre discussion à bâton rompu, que tu étais plutôt pessimiste compte tenu de ce qui se passait. Moi, ça m'a fait penser, puisque malgré tout, on a continué à parler de possibilités, hein, à la fameuse notion de pessimisme révolutionnaire de Walter Benjamin, hein, qui se définissait lui-même comme un pessimiste révolutionnaire. Il était pessimiste, mais il restait révolutionnaire. Il était révolutionnaire, mais il était pessimiste. Ça se discute, bien sûr. Hein. Compte tenu de tout ce bordel, et on peut peut-être rapidement répondre en faisant un rapide tour de table, puisque c'est bientôt le filage de Didier Petit et des mondes d'ici. Donc voilà, que malgré cette situation et tout le pessimisme qu'elle engendre chez nous, chez les uns et chez les autres, quelle idée ou quelle possibilité a pu émerger éventuellement, et on peut reprendre des choses qu'on s'est dites depuis tout à l'heure, hein, peu importe, ou qui ont déjà été faites dans l'histoire ou dans le passé, peu importe. Mais quelle possibilité voyez-vous pour 2021-2022 de forme d'action et d'organisation? C'est pas rien comme question. T'as le droit à Joker, tu peux désigner quelqu'un d'autre et parler juste après.
Raphaël, c'est une chambre de super banco.
Alors, la question est tellement immense qu'effectivement, je ne sais pas tellement par quel bout la prendre. J'ai bien aimé la fin de la discussion parce qu'en fait, on aborde des sujets qui sont tous plus énormes les uns que les autres. Repolitiser l'esthétique, renégocier la relation entre l'art et la vie, expérimenter l'infini des possibles qui s'ouvrent devant nous. Et peut-être que à défaut d'une réponse concrète sur ce que j'imagine pour les années à venir, je vais peut-être répondre sur un plan plus personnel en revenant à ce que j'ai dit au début sur la question de la brèche dans le présent. J'ai l'impression que, en tout cas pour moi, cette période-là m'a fait prendre conscience de à quel point ces musiques-là, les musiques créatives, les musiques improvisées, sont importantes pour créer cette chose-là, pour créer une brèche dans le présent. Et que je sais que même si ça revient, et là je reviens sur mon côté un peu pessimiste, même si ça revient, même si on revient au monde d'avant...
Non. Je ne l'aime pas.
Je sais que... Enfin, je pense que je vais savourer cette chose-là encore plus parce qu'elle elle m'apparaît comme d'autant plus précieuse qu'on en a été privé pendant un certain temps. Voilà, après le reste à inventer.
Ouais. Moi, disons que personnellement, cette période-là, faire un optimisme révolutionnaire, moi, c'est une période dans laquelle j'ai envie, et je pense que je le fais à ma façon, sans prétention, de me radicaliser, parce que justement, c'est une période énorme, enfin, qui nous confronte à l'énormité de ce qu'on vivait depuis longtemps. Pas forcément avec la musique, même si forcément c'est inclus dans ma vie, mais oui, moi je pense que je me pose beaucoup de questions sur le rapport à la loi, à l'ordre qui nous est fait. Je pense qu'il y a des actions à faire qui ne sont pas des résistances parce qu'on refuse le confinement, mais il y a des résistances et des refus à faire à plusieurs. Et moi, je pense qu'il y a des choses à créer et que la musique fera partie de ça, même si c'est pas ce à quoi je pense, quoi. Mais moi, je me sens bouleversé par tout ça, et on l'est tous. Là, on est vraiment dans un moment très, très dur. Mais on voit qu'il y a des idées qui émergent, on voit qu'il y a des réflexions. Enfin, je veux dire, la discussion qu'on a eue là, elle n'aurait pas eu lieu il y a un an. Dans le cadre de son d'hiver, dans le cadre, etc. Enfin, c'est, donc, il se passe des choses. Le dossier qu'on a fait avec les allumés du jazz, il n'aurait pas eu lieu il y a un an. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui ne... Enfin, c'est la question des curseurs, quoi. C'est-à-dire que des choses qui étaient complètement normales, acceptées, qui ne faisaient pas débat, sauf dans une énorme minorité de gens, et y compris de musiciens, sont aujourd'hui complètement débattues. Et je me réjouis de ça. Et quand tu dis il y a des musiciens black bloc, j'en connais 2-3, pareil. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu dire, je pense, à son hiver.
On pourrait faire un big band.
Donc des projets concrets, j'en ai pas, même si tu vois, j'ai plein de musiciens qui parlent d'ouvrir des squats, à rejoindre ce que disait JV, c'est des choses dans lesquelles j'ai envie de m'impliquer. Mais ouais, moi j'ai envie de dire que ça libère des radicalités anciennes ou nouvelles et que j'ai envie de me ruer là-dedans.
Merci Pierre. You got the question, the final question,
no,
JV?
No.
Well, Maurice, what would you see as options and possibilities for the near future, considering the mess we're living in now?
It would be great if some very peaceful people took over all of the world's nuclear weapons and banks and redistributed the nuclear weapons to somewhere in outer space and redistributed the money or maybe the value system so that we could get on with the sharing that we need to do. But I understand this is fan fiction.
Alors, l'option proposée par JVM Montgomery est très simple. C'est d'abord, bon. Il faut que les pacifistes du monde entier envahissent tous les sites nucléaires, s'approprient toutes les armes nucléaires et les confient à une population extraterrestre quelconque, donc en débarrassent la planète Terre. Que par ailleurs, ils s'emparent également de toutes les banques pour redistribuer, il a commencé par dire, pour redistribuer la monnaie. Puis finalement, il dit non, ce serait tout aussi bien de se débarrasser du système de valeur tel qu'il existe. Voilà.
Donc, let's do it.
Yeah.
Jean, tu veux...
Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter à tout ça, mais je dirais que plutôt que subir la catastrophe, il faut qu'on devienne la catastrophe.
Voilà, notre émission s'achève la semaine prochaine sur Radio Libertaire, un radio-concert carte blanche à Hélène Bréchamp, avec des invités surprises, me semble-t-il. On se quitte avec In Bloom du groupe Oxide à 17h30 Radio Espéranto. Allez, salut!